Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Quand un mari ou un compagnon est violent, on sait à quel point c'est compliqué de porter plainte. Mais quand il est gendarme, c'est encore plus compliqué. Voici l'histoire d'Alizé Bernard, tirée de son livre coécrit avec Sophie Boutboul qui paraît chez Grasset. Silence, on cogne. Il lui a fallu surmonter beaucoup d'obstacles pour faire condamner son compagnon gendarme. Je l'ai écrit avec l'aide de Simon Veil, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Nos regards se croisent pour la première fois durant l'hiver 2005, dans une boîte de nuit. J'ai 18 ans et lui 15 de plus. Il me parle à l'oreille, il me fait rire. À un moment, nos mains se frôlent. Et à la fin de la soirée, je pourrais avoir ton numéro ? Non, pas maintenant. La différence d'âge ? Moi, je vis encore chez mes parents, et lui, il est en instance de divorce, et il a déjà un enfant. Franchement, je ne vois pas ce qu'on a en commun. Pendant un mois, il revient souvent dans cette boîte de nuit. T'accepterais de passer une soirée avec moi ? C'est charmant, tous ces efforts qu'il fait. Et puis, il me plaît bien. Alors, je finis par céder, et début 2006, nous dînons tous les deux. Je me souviens, il fait très froid, je suis collé au chauffage du restaurant. La soirée est agréable, mais on est trop différents. Je suis lycéenne, je passe mon bac, et lui, il est gendarme et papa. J'écoute du Martin Solveig. Et lui, il écoute du Renaud.
À part ta peau de sirène, à quoi toucher ? À l'outil taillé dans le chêne ou l'olivier ?
On est beaucoup trop différents. Cela dit, on a aussi des points communs. Et petit à petit, je tombe amoureuse. La première fois que je vais chez lui, à la caserne, j'ai l'impression d'entrer dans un petit village clôturé. Je gare ma voiture sur le parking visiteur, premier poste de garde, puis second. Vous pouvez me donner votre nom, prénom, carte d'identité, numéro d'immatriculation, s'il vous plaît, merci. Et dans le hall, une plaque émaillée. Les chiens sont autorisés, les femmes sont tolérées. Bah, t'inquiète pas, hein. C'est comme ça dans tous les bâtiments. Quelques temps plus tard, il m'invite à passer une semaine à la caserne. Il vient me chercher chez moi, et moi, je ne veux pas qu'il rencontre mes parents pour l'instant. Donc je lui ai demandé de m'attendre dans la voiture. Je suis en train de terminer ma valise à l'étage. Je l'entends qui frappe à la porte.
Ah bonjour madame, je suis un ami de votre fille. Vous inquiétez pas, hein. Je vais faire attention à elle.
C'est trop tôt, ça me gêne. Mais je l'aime, je l'admire, et pour lui, je suis la plus belle, la plus intelligente, la femme de sa vie, la huitième merveille du monde. Son premier déplacement, pour une mission de renfort et de maintien de l'ordre, dure un mois. Il m'envoie des messages tous les jours. Et si je sors avec des amis, il s'inquiète. Alors pour le rassurer, je ne mets plus le nez dehors jusqu'à son retour. En septembre 2006, moi je démarre un BTS. Je dors dans son appartement de plus en plus souvent et je finis par m'installer chez lui. Et là il m'explique les usages de la vie en caserne, les règles officieuses.
C'est une petite communauté, tu vois, ici. Bah, il faut dire bonjour à tous ceux qu'on croise. Mais pas trop parler aux femmes, hein, qui se regroupent en bas avec les enfants. Tu verras, ce sont des commères. Elles font beaucoup d'histoires. Hein. Elles sont capables de semer la cisanie dans notre couple. Hein. Avec les hommes aussi, tu discutes pas trop. Hein. Sinon, tu vas vite avoir une réputation d'allumeuse. À part ça, on ne ferme jamais la porte chez nous. On ne risque rien. Et puis, les cloisons sont maigrelettes. On entend tout ce que font les voisins. Quand ils déjeunent, quand ils vont aux toilettes, quand ils mettent en marche leur sèche-linge. Il faut faire avec.
Au printemps 2008, je le rejoins en Martinique où il est en mission. Et le jour de mon départ pour Paris, parce que soi-disant il veut profiter de moi le plus longtemps possible, il m'emmène à l'aéroport au dernier moment, en voiture de gendarme, avec le gyrophare. Je trouve ça bizarre. Il fait ce qu'il veut. Il est censé faire respecter la loi, il ne la respecte pas. Et en même temps, je me dis, c'est pas trop grave. Au début de l'été, on est en voiture, l'air est doux. Je baisse la vitre côté passager. Depuis quelque temps, il y a quelque chose que je ne supporte pas. Il continue de voir une de ses ex. Non mais tu comprends, je peux plus vivre avec une autre femme, enfin, qui est si présente dans notre couple. Je peux plus. Si ça continue, je te quitte. Et là, bam ! Coup de poing sur ma joue gauche. Je suis ébloui, sonné. Arrête-toi ! Je veux descendre de la voiture. J'ouvre la portière. Je me laisse tomber dans le fossé. C'est la première fois qu'un homme me frappe. Je suis complètement paumé. Je sors mon téléphone. Je veux appeler un taxi, mais je sais même pas où je suis. Il se gare plus loin. Il revient vers moi.
Je suis désolé. Je m'excuse. Allez, remonte dans la voiture. C'est dangereux de rester sur le bord d'une route toute seule.
Je remonte. Allez, c'est bon, calme-toi, t'as rien.
Si. J'ai mal. Amène-moi à l'hôpital.
Je t'amène chez le médecin de la caserne. Le docteur en question ne peut rien faire pour moi. Alors il rédige un courrier pour les urgences de l'hôpital. Et à l'hôpital, moi je ne peux pas parler. C'est lui qui parle.
Je suis gendarme, là, à la caserne d'à côté. J'entraînais ma compagne à la boxe pour lui apprendre les techniques de combat. Elle s'est mal protégée. Elle a mal monté sa garde. Elle a pris un mauvais coup.
Ils s'y reprennent à plusieurs fois pour remettre ma mâchoire en place. Je ne peux plus ouvrir la bouche. Un certificat médical atteste que j'aurai des problèmes d'élocution pendant 21 jours. 3 semaines. Et demain, j'ai l'oral d'anglais de mon PTS. On rentre à la maison. Il file acheter des médicaments et faire des courses. Il revient avec des parfums.
J'en veux pas de tes parfums. Je suis pas à vendre.
Il s'excuse. Il s'effondre. Il pleure.
Mais t'es la femme de ma vie, putain. Je t'aime trop. J'ai pas voulu te faire mal.
Je lui dis que je ne peux pas rester avec un homme violent. Je lui dis, tu recommenceras. Tu me fais peur. Et lui promet que ça ne recommencera pas. Qu'il va prendre sur lui. Est-ce que c'est le fait qu'on habite en caserne qui me retient de partir? Je reste. Je le crois. Je l'aime aussi. J'ai passé mon examen sans pouvoir ouvrir la bouche. Je leur ai montré mon certificat médical pourtant. Lui, il l'avait jeté à la poubelle. Je l'avais récupéré. Et pourtant, adieu mon diplôme. On m'a proposé un poste de chargé de clientèle dans une grande ville. Il ne veut pas. Il a peur que je rencontre trop de monde, que je me fasse draguer.
Ben, je sais pas, trouve quelque chose. Je sais pas, plus près de chez nous, quoi. Qu'on pense à la famille qu'on veut construire.
Il règne sur mon existence, désormais. Il ne veut plus que je fume non plus. Il veut que je fasse du sport. Et moi, je n'ai pas encore compris la puissance d'un uniforme. Il a recommencé, bien sûr. À coup de claque, je me suis retrouvé bloqué entre le canapé et la table basse. Les voisins ont entendu, sans doute. Il n'a pas l'air très inquiet.
Ah ! Tu sais, à la caserne, beaucoup d'hommes frappent leurs femmes.
Et puis, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit « Tu es la femme de ma vie ». Il m'a dit « Je t'aime trop, c'est pour ça que je te frappe ». Il m'a expliqué qu'il avait du mal à gérer son travail, qu'il avait beaucoup de pression, qu'il allait quitter la gendarmerie mobile. Et moi, je me suis raccroché au fait qu'il m'aimait.
Je suis enceinte.
Je suis heureuse. Ah bah dis donc. Qu'est-ce que t'es grosse? Qu'est-ce que c'est moche une femme enceinte? Il a recommencé. Je ne suis pas d'accord avec lui. Bim! Il me frappe. Il a recommencé encore sur la tombe de ma grand-mère. Je sais pas, il a dû trouver que je me recueillais trop. Il m'a pris par les cheveux. Il m'a traîné sur le gravier, sur plusieurs mètres. Notre fils est né. Je suis au lit, je l'allaite. Il regarde un film d'action à la télé.
Tu peux baisser un peu?
Bim!
Oh, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire.
Une autre fois, il me frappe. Je lui dis,
je vais te quitter. Je vais aller à la gendarmerie dire ce qui se passe.
Ah ouais? Moi, je pense qu'ils me croiront, moi. Hein? Quoi qu'il arrive, j'ai 16 ans de gendarmerie, je te rappelle. Et je suis assermenté.
Je suis piégé.
À la fin de mon congé maternité, je ne reprends pas le travail. Ça m'isole encore plus. En 2013, j'appelle pour la première fois le 3919. Mais j'ai trop peur qu'il l'apprenne, alors j'en reste là. Cette année-là, je découvre aussi qu'il a des maîtresses. Je le lui dis, il me roue de coups. Et là, je rappelle le 3919.
Madame, je vais vous donner un conseil. Recueillez des preuves, hein. Le plus de preuves possible.
À partir de là, je me mets à l'enregistrer avec mon téléphone quand il m'agresse. En février, devant toute ma famille, il me demande en mariage. Devant les autres, je joue le jeu. Mais quand on est en tête à tête, je lui dis non. Non! Je suis pas un chien à qui on balance un sucre pour lui faire plaisir. Le samedi 16 avril 2016, énième dispute. Heurté par un coup de pied, je tombe sur la poubelle de la cuisine. J'essaye de me relever. Je n'y arrive pas. Et là, il me soulève en me tenant par le cou. Il me bloque la tête et le buste contre l'évier. Il a un couteau dans sa main droite. Un couteau. Je sens la lame froide sur le haut de mon crâne et son autre main qui m'étrangle.
Je vais te buter.
À ce moment-là, j'entends notre fils de 5 ans à l'étage. Qu'est-ce qui va arriver s'il me retrouve en sang dans la cuisine? Il finit par desserrer ses mains.
T'es malade? T'es complètement malade. Il faut que tu t'en ailles. C'est plus possible de vivre comme ça. Je vais appeler la gendarmerie. Ça peut plus continuer comme ça. Arrête. T'es encore en vie. Ça va. Et puis va le prouver. Hein? Va le prouver, ma vieille, que je t'ai menacé avec un couteau. T'as une marque? T'es coupé? Tu saignes? Non. Alors t'as qu'à les appeler? Et puis moi, je dirais que c'est toi qui m'as menacé avec un couteau, hein? Je dirais que t'es folle.
J'ai appelé la gendarmerie. Je leur ai dit que je ne voulais pas d'intervention, que je voulais juste qu'ils gardent une trace de mon appel et que je lancerai une procédure après le week-end. 2 heures après, j'entends des voitures arriver dans notre impasse, je regarde par la fenêtre, c'est la gendarmerie. 8 gendarmes. Il frappe, c'est lui qui le rouvre.
Coucou, entrez, je vous en prie. C'est la miss qui vous a appelé. Vous voulez boire quelque chose?
2 gendarmes s'isolent avec moi. Je leur raconte tout. Le couteau, l'étranglement, les insultes. Je leur dis que j'ai un enregistrement de tout ça. Enregistrement dans lequel il reconnaît qu'il m'a étranglé et menacé avec un couteau. Et de toute façon, il voit bien les rougeurs sur mon cou. Une demi-heure plus tard.
Bon, madame, il a trouvé un endroit pour dormir.
Il n'est pas placé en garde à vue. Je n'y crois pas, je suis sans voix.
On vous auditionnera demain, ok? Je vous appellerai demain matin pour vous dire à quelle heure. S'il revient, vous nous appelez, bien sûr.
Quand ils sont partis, je me barricade dans la maison. J'ai peur qu'ils reviennent dans la nuit. Je m'assois sur une chaise dans le salon face à l'entrée, je fixe le portail avec un couteau à portée de main et une gazeuse. Le lendemain, j'arrive à la gendarmerie, je tremble. Je m'installe dans la salle d'attente et là il arrive et il s'assoit en face de moi.
T'es une belle salope, hein, d'avoir fait des enregistrements. Comment ? Comment tu sais ça, toi ?
Pas de réponse. Pourquoi ils m'ont donné cette information ? Qui est à l'origine de cette fuite ? Ils veulent le protéger ? Il est interrogé par le directeur d'enquête, et moi par une gendarme, dans un bureau étroit. Et régulièrement, le directeur d'enquête vient prendre connaissance de mes déclarations.
Vous voulez porter plainte, madame ? Je ne sais pas encore. Il faut que j'en parle avec ma famille, je veux être sûr d'avoir leur soutien. Vous savez, madame, il risque de perdre son travail. Le mieux serait sans doute d'en rester là, non? Vous vous séparez, vous faites les choses intelligemment pour votre fils et... Vous voulez porter plainte alors? Je peux prendre un peu de temps pour réfléchir. Je vous recontacte demain, c'est possible?
Et là, ils impriment le procès verbal. Je le relis. Il n'est pas mentionné qu'il a utilisé un couteau. J'insiste pour que ce soit écrit noir sur blanc. Il l'ajoute. Je signe. Le gendarme s'isole avec moi.
Il faut que vous vous concentriez sur le bien-être de votre fils, madame, non? Séparez-vous proprement. Vendez la maison. Je sais pas, refaites votre vie.
Quand on arrive à la maison, il me tend un papier qu'il a dans la main. C'est une composition pénale qui consiste en une amende de 250 euros.
Tu vois, je m'en sors le cul propre, hein, grâce à mon pote.
Je suis allé voir mes parents. Je vais déposer plainte. Le lendemain, j'appelle le chef d'enquête pour le lui dire.
Ah mais ça n'est pas possible, madame. Hein. Le procureur s'est déjà positionné. Il sera convoqué dans quelques semaines.
Je peux peut-être porter plainte, je sais pas moi, pour les autres faits de violence, je suis allé aux urgences plusieurs fois.
Ah non, madame, non. Non, ça c'est pas possible non plus, hein. Votre procès verbal englobe tout, madame.
Mais j'ai pas parlé tout hier.
C'est comme ça, madame.
J'éclate en sanglots. Refuser une plainte, c'est illégal. Mais ça, je ne le sais pas. Et j'apprendrai plus tard qu'ils auraient dû me rappeler 48 heures après pour me redemander si je voulais porter plainte. Ils ne l'ont pas fait. Deux semaines plus tard, je suis en rendez-vous avec mon avocate. Il m'appelle, il me laisse un message.
Heureusement que je connais du monde, hein. Je vais m'arranger. Alors là, me fais pas de coups, hein, parce que là, ça va vraiment mal se passer, hein.
Je fais écouter l'enregistrement à mon avocate.
Là, vous allez tout de suite porter plainte, hein. Et surtout, vous faites bien une plainte, hein. Pas un renseignement judiciaire, pas une main courante. Et si on me refuse? C'est impossible qu'on vous refuse.
Et pourtant, à la gendarmerie, ils refusent. Et ils appellent devant moi la brigade où je suis allé le jour du couteau. Et j'entends tout.
Allô? Ouais, aidez-moi, j'ai Madame Bernard devant moi, là. Elle veut déposer plainte. Tu connais le monsieur, hein?
Oui, oui, je le connais. Écoute, prends un renseignement judiciaire, hein. Surtout pas une plainte.
Il m'a donc imposé un renseignement judiciaire, ce qu'on appelle une main courante, qui a ensuite totalement disparu de la base informatique de la gendarmerie. Toutes les brigades et tous les commissariats de police ont l'obligation de recevoir les plaintes. Mais moi, on m'a tout refusé. Jusqu'à ce que je rencontre une avocate, Nathalie Tomasini. Elle a appelé.
Vous ne pouvez pas lui refuser une audition. Hein. Non, monsieur, non, non. C'est la loi. La loi du 15 juin 2000, monsieur. Demain, qu'on soit clair, hein, elle viendra déposer une plainte. Hein. D'accord.
L'accueil des gendarmes a été correct. On a repris toute la chronologie des faits depuis le premier coup de poing. Ils m'ont donné un récépissé de ma plainte et une convocation pour une unité médico-judiciaire. Tout ce qui aurait dû être fait il y a 2 mois. En octobre 2016, on me confronte à lui dans un poste de police. On ne se regarde pas.
Vous vous rendez compte, monsieur, que vous avez utilisé des techniques de combat sur votre compagne? J'ai rien fait du tout. Elle a aucune preuve de tout ça. Elle s'est fait ça d'elle-même.
Il nie tout ce pourquoi je n'ai pas fait de certificat médical. Il ne sait pas que j'ai des enregistrements et que je les ai fait retranscrire. Je les donne à la policière et je sors de cette confrontation épuisé. Son procès a lieu le 27 janvier 2017. Il est jugé pour 4 mois de violence seulement, alors que dans ma plainte, j'ai raconté 8 mois de coups. Le juge n'a retenu que les périodes au cours desquelles je suis allé aux urgences. Quand il arrive, il rigole. Il a l'air détendu. Moi, je suis au bord de l'implosion. Comment fait-il pour être aussi serein? Des gens passent, il les salue. Il semble connaître du monde au tribunal. Il est interrogé à la barre.
Je suis conscient de mon problème. Mon problème, c'est mon agressivité. C'est le stress. Et le stress, on l'évacue de plusieurs façons. Et disons que pour moi, c'est physique, quoi.
J'aurais tellement aimé qu'ils disent « C'est vrai, j'ai pété un câble, elle a subi, je suis désolé, qu'il ait une once de remords, quoi. » Mon avocate l'interroge.
« Vous avez des titres en sport, n'est-ce pas, monsieur ?»«
Ouais.
Je pratique des sports de combat depuis que je suis adolescent. »« Vous devez parfaitement savoir maîtriser vos coups avec toutes vos médailles. »« Mais non, hein. Vous êtes monsieur Hulk, une petite pitchenette et clac !» Fracture du nez. Vous avez des états de service excellents, monsieur. Des médailles d'honneur, des certificats en karaté. Vous avez plein d'atouts pour défendre la veuve et l'orphelin. Et vous? Eh bien vous avez employé cette force pour vous en servir contre une femme qui fait la moitié de votre taille et de votre poids. Et en utilisant votre fils comme un outil d'intimidation.
Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis, plus 18 mois de mise à l'épreuve et une obligation de soins. Il doit aussi me verser 2000 euros au titre des souffrances endurées. Mais ça ne sera pas écrit au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Il pourra continuer à travailler. C'est un traitement de faveur parce que quelqu'un qui fait un excès de vitesse, on lui retire son permis même s'il doit aller travailler tous les jours. Eh bien lui, on l'a épargné. J'ai tiré cette histoire du livre d'Alizé Bernard et Sophie Boutboul chez Grasset. Silence, on cogne.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.